Nous sommes des élèves du Club Nature du collège Mira Makeba à Aubervilliers. Nous participons depuis plusieurs mois à une résidence Agora.
Aujourd'hui, on part en reportage pour découvrir deux fermes hors champ, deux fermes urbaines. Elles sont à 10 minutes à pied du collège.
Elles s'appellent Terre Terre et Cultissime. L'une est perchée en haut d'un toit et l'autre est au ras du sol. Savez-vous ce qu'est une ferme urbaine ? Non, nous non plus, on ne savait pas avant d'aller les visiter.
Alors suivez-nous, on vous emmène.
Pour aller à Cultissime, on a emprunté plusieurs rues d'Aubervilliers. Dans ces rues, il y avait plein de magasins de vêtements et de bijoux. Arrivé au point de rendez-vous, on n'avait vraiment pas l'impression d'être devant une ferme.
On était devant le Fashion Center, un grand centre commercial pour les grossistes. C'est Alexandre Bérénice, le responsable de la ferme, qui nous a accueillis.
Alexandre est habillé en maraîcher, avec de grosses bottes, un bonnet, un gros pull qui tient chaud et un pantalon plein de poches pour pouvoir mettre des outils de jardin. Avec lui, on a pris un ascenseur jusqu'en haut du bâtiment.
Arrivé au troisième étage, on a entendu un coq chanter
« Cocorico ! »
Il a fallu monter une échelle et franchir une passerelle pour rejoindre la ferme à 10 mètres de hauteur.
Bienvenue sur le toit du Fashion Center, le projet Cultissime. Il y a culti comme cultiver et cime comme un peu la cime des arbres en haut. Et comme on est sur un toit, voilà, cultiver en haut. Donc l'idée, c'est de produire des légumes en ville, de les vendre et les distribuer le plus possible en local et travailler avec des personnes en insertion.
Moi, la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'on voyait vraiment très loin. Par exemple, on voyait le Sacré-Cœur, la Cité de la Musique.
Moi, j'ai surtout remarqué la verdure, les fleurs, le compost et les tissus sur les plantes pour les empêcher d'avoir froid.
Moi, je pensais qu'il y avait des plantes dans les bacs, alors qu'en fait, il y a de la terre partout sur le toit. Une terre un peu spéciale.
Est-ce que la terre, elle est profonde ?
Très très bonne question. Oui, elle est relativement profonde, notamment pour la toiture, parce qu'on a un mètre de profondeur, donc ce qui est exceptionnel en fait sur cette surface-là. Le sol que vous êtes en train de marcher ici, c'est pas le même sol que vous avez quand vous êtes par terre ou dans un champ en fait.
La terre, elle est faite en quoi ?
Alors, la terre, je préfère le mot substrat pour ici. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui est totalement construit par des humains. Donc ici, on a un mélange de compost, donc tous les déchets organiques qu'on peut avoir en ville, donc essentiellement en fait vos épluchures de légumes, etc. Ensuite la pouzzolane, donc c'est une roche volcanique qui va être très très légère, poreuse mais en même temps qui retient l'eau, du sable, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Et après on va avoir de l'argile et des limons. L'argile, pensez un peu à ce qui permet de faire de la poterie pour ceux qui en ont fait. Et le limon, c'est un peu plus fin comme particule et ça va être plus que vous pouvez trouver en fond de lit de rivière.
C'est une terre composite.
C'est un très bon terme pour décrire cette terre, enfin ce substrat. Donc ici, c'est comme si on travaillait dans un très 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 grand pot de fleurs.
Comment ça se fait que vous ayez eu cette idée de cultiver sur un toit ?
Avec les nouvelles règles d'urbanisme, donc les règles qui disent qu'est-ce qu'on a le droit de construire ou pas en région très proche de Paris, il y a une obligation d'avoir ce qu'on appelle des compensations écologiques, c'est-à-dire de rendre plus écologiques les bâtiments. Et du coup, dans ces différentes solutions, il y a le fait de mettre des toits avec des végétaux et des panneaux solaires. Ici, il y a les deux, par exemple. Il y a aussi un autre avantage. Malheureusement, la Seine-Saint-Denis est assez polluée quand on parle de terre au sol. Et l'avantage ici, c'est que vu qu'on a amené de la terre d'ailleurs, c'est pas pollué, on s'est dit bah, faut faire de l'alimentaire. En plus, il y en a besoin. En Seine-Saint-Denis, on ne croule pas sous les productions locales.
Faire de l'agriculture sur un toit, ça change quelque chose ?
Moi, je rigole beaucoup en disant qu'on a un climat de montagne, c'est-à-dire que là, on vous l'avait bien vu aujourd'hui, tout à l'heure, il y avait du vent, il faisait très froid, là, d'un coup, il y a le soleil, il fait très chaud. Il y a évidemment tout le défi logistique, vous avez vu qu'il y a des échelles, donc quand on doit ramener des matériaux, ça va se faire aussi à dos d'homme. Bah, commençons par le commencement, en fait. On va aller vers la pépinière. Donc voici la serre, donc c'est couvert avec une bâche plastique, ça permet qu'il fasse un peu plus chaud et du coup de démarrer plus rapidement les semis. Donc les semis, c'est le moment où on met la semence, donc la graine, dans du terreau. Donc l'idée derrière, c'est on prépare les plants au chaud, ils peuvent être démarrés un peu plus vite et comme ça ensuite on pourra les mettre en plein champ. Ici on n'a pas beaucoup de surface, donc le grand jeu en vrai c'est d'optimiser tout le temps la surface et le temps. On est ce qu'on appelle en, en agriculture bio-intensif. Donc l'idée, c'est de faire le plus de rotations possible sur la même parcelle en une saison. On fait pas mal de semis en serre à la pépinière et ensuite on repique.
Vous dites que vous travaillez 100% naturel, comment faites-vous ?
Déjà, on va commencer par acheter des semences bio. On va pas mettre de traitement. En fait, les seuls produits qu'on va s'autoriser sont autorisés dans la culture biologique. Le seul que j'utilise vraiment, en fait, c'est l'antilimace sur les courges en début de saison, les courgettes, sinon on perd toujours la guerre. Sinon, on va utiliser des filets anti-insectes.
Ça vous arrive d'avoir sur certaines espèces des maladies, des problèmes pour la récolte ?
Évidemment. Évidemment, là si je prends l'exemple de cette année, l'hiver a été très doux et du coup les insectes, donc insectes s'appellent les altises, ils ont totalement attaqué des légumes de la famille des brassicacées, radis rave, donc radis bleu d'automne et radis noir rond que j'avais. Concrètement, moi je dis souvent qu'un maraîcher c'est un trader qui gagne pas d'argent. On fait plein de paris et il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas et du coup chaque année, ben, en moyenne ça marche quoi. Mais il y a toujours des trucs qui marchent pas, c'est sûr.
Vous êtes installé en pleine ville, comment éviter que les récoltes soient polluées ?
Au niveau de tout ce qui va être dépôt, quand on regarde les études qui ont été faites notamment par AgroParisTech, eux ils n'ont pas trouvé de dépôt après lavage. En fait ce qui se passe c'est que la pollution atmosphérique, quand c'est des plantes qui sont annuelles, par exemple une salade, s'il y en a qui se déposent, il suffit de la laver pour enlever 99% de la pollution. Donc concrètement ici on a des produits exempts de pollution, enfin pas 100% parce que rien n'est pas pollué, c'est impossible de faire ça à partir du moment où on trouve des polluants dans les ours polaires, enfin voilà, c'est pas zéro, mais on est largement en dessous des seuils et pour de la ville on est très 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 propre. On va refermer parce qu'il fait froid et on va laisser les petites au chaud. On va essayer de rester groupés, de pas trop marcher partout. Vous me suivez ?
À quoi servent les fermes urbaines ?
Les fermes urbaines servent à reconnecter les urbains avec le vivant, avec les cycles de la nature. Moi, par exemple, j'adore faire reprendre conscience des saisonnalités. C'est-à-dire dans quelle saison on mange des tomates, dans quelle saison on mange des courgettes. Si on compare avec des légumes, on parle des tomates que nous on produit avec les tomates qui sont produites sous serre, chauffées en hiver, évidemment que ça n'a pas le même goût. Mais pour moi, c'est juste pas le même fruit en fait. Imène, tu peux aller prendre une fourche bêche, s'il te plaît ?
Vous dites que votre ferme urbaine est 100% solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il y a un volet insertion, donc c'est aider des gens à reprendre confiance en eux pour retrouver un emploi. Donc il y a moi, donc l'encadrant technique, et 6 postes de salariés en insertion. Ils peuvent avoir toutes sortes de difficultés sociales. Ça peut être logement, drogue, simplement aussi chômage de longue durée ou même être au RSA. L'idée, c'est en s'occupant du végétal, on apprend aussi aux personnes à reprendre confiance en elles et à prendre soin d'elles.
Les enfants, enchantés. Moi, c'est Imène.
Imène a 21 ans. Elle est en insertion à Cutnessine depuis un an. Elle nous a appris à réaliser des boutures de sarriette, une plante aromatique.
Moi, je fais des trous pour qu'ils mettent les plantes.
On est en train de faire les semis un peu.
Les boutures.
En fait, on coupe les feuilles qui sont autour de la tige. Comme ça, on les met dans la terre pour que les racines elles se reforment.
Pourquoi vous avez choisi ce métier ?
J'ai fait mes études dans le social, c'est la filière SPVL, j'ai eu mon bac. J'aimais bien le social, mais le problème c'est que j'ai eu une maladie du sommeil. Je suis narcoleptique. C'est comme des crises d'endormissement. On peut pas dire que je m'endors, mais c'est un peu comme si je somnolais. Donc je m'endormais souvent et j'avais du mal à noter les cours. Donc en fait, les bureaux, c'était pas fait pour moi. Et le social, c'est surtout dans les bureaux. Et bah, en étant à l'extérieur, c'est bien mieux. Je suis plus réveillée déjà et je suis moins dans l'ambiance pour avoir ces crises. Quoi.
Goûtez-vous les légumes que vous faites pousser ?
Oui, ça nous arrive. Quand il y a des légumes qui sont pas assez beaux pour la vente, ou qui sont un peu trop abîmés, mais qu'il y a des parties qu'on peut quand même récupérer et cuisiner, bah on les récupère pour nous. Ils sont super bons.
Qu'est-ce que ça fait pour vous d'apprendre ce métier ?
C'est trop bien. Enfin, un toit végétalisé, c'est trop bien. En plus, c'est pas de la végétalisation juste décorative. C'est vraiment du vrai maraîchage. Tu produis vraiment des vraies plantes et c'est toi qui les fais pousser du début jusqu'à la fin. C'est super.
Avez-vous le plaisir de le faire ?
Ouais, beaucoup. surtout les trucs en pépinière pour semer et tout ça. C'est comme un peu des petits bébés dont tu prends soin. Des petits bébés, les graines. Ensuite, on prend soin au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et c'est trop chou. Vous avez vu un peu comment ça pousse? On les a semés il n'y a pas très longtemps. On a planté des betteraves, 3 sortes de betteraves. Et des épinards. On a fait des boutures de sauge. Et quoi d'autre? Des boutures de thym.
Pensez-vous continuer à faire ce métier?
Oui. En tout cas, dans le domaine de l'environnement, oui. J'aime bien être au milieu de la nature. J'ai toujours aimé être avec la nature. C'est pour ça au début, je voulais faire soigneuse animalière. Mais ouais, les formations sont trop chères. Et trop loin. Il n'y a que 4 écoles en France. Et donc, ouais, c'est être au milieu de la nature que j'aime bien et bouger. Être en permanence en train de bouger parce que enfin, je faisais pas forcément de sport. Des fois, il y a beaucoup de vent quand même. C'est un peu énervant, mais ça va. Les personnes avec qui je travaille, elles sont super. Enfin, surtout Alex, avec qui j'apprends beaucoup de choses.
Merci.
Merci à toi.
Combien de personnes en insertion ont été formées ici depuis que vous êtes installé?
On va faire entre 20 et 30 personnes. Nous, notre but, c'est qu'elles trouvent un travail. Certains en trouvent, d'autres partent en formation. Certains, malheureusement, certains ne retournent dans leur travers parce que bon, c'est de l'humain, on peut pas tout contrôler. Il y a vraiment aussi un côté donner du temps au temps. C'est aussi pour ça qu'on est aussi nombreux sur une petite surface. C'est qu'au-delà des méthodes avec lesquelles on travaille, c'est parce que il y a le temps de faire les choses. Mon rôle aussi, c'est de prendre le temps, d'apprendre aux personnes, et même si des fois, eh ben, ça me met en retard sur la saison. Ça met en retard sur les cultures, mais le travail principal, il reste vraiment de s'occuper des gens. Quelque part, quand on fait de l'insertion par l'activité économique, c'est un prétexte. C'est un prétexte au social.
Alexandre, Imen et les 6 autres personnes en insertion produisent 1 tonne de fruits et légumes chaque année. Certains poussent sur des arbustes.
À l'autre côté, on va avoir toutes les boutures de petits fruits, ces plantes-là. Elles peuvent résister en pot dehors.
C'est une framboise. C'est des framboises.
Ouais, t'as raison.
Donc, à la base, normalement, il y avait des petites épines et j'ai reconnu les feuilles.
Mais ça fait plaisir de voir que tu reconnais les feuilles. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir le fruit pour que tu retrouves. Donc non, je suis content.
Moi, j'ai déjà mangé des framboises quand j'étais petite, mais une fois.
Commercialement, c'est un produit de luxe. Mais à cultiver, c'est simple. Et j'espère qu'on en verra de plus en plus dans les villes. C'est pour ça qu'on essaye de nous produire des pieds de framboisier pour après en mettre le plus en plus dans les villes. Parce que c'est un produit qui est fragile, donc il doit être tout de suite récolté, vendu et ça coûte assez cher. Et surtout à la récolte, à la main d'œuvre. Par contre, en fait, c'est facile à entretenir comme plante. Ce serait bien que, à la place, là je fais de la politique, c'est pas grave, à la place d'avoir des fotinias, qu'on ait un peu plus de framboisiers dans les villes et qu'on puisse déguster des framboises tous ensemble.
Que deviennent vos récoltes? Sont-elles vendues ou données?
Il y a une partie qui va être purement commerciale, donc qui va être vendue à des épiceries fines. Il y a une partie où elles ne sont pas données mais distribuées. Des paniers solidaires aux personnes qui ne pourraient pas forcément acheter des légumes frais et de qualité toute l'année. Il y a aussi un collègue d'espace qui fait aussi des soupes populaires où quand j'ai des légumes que je ne sais plus quoi faire, je vais lui livrer et il fait des ateliers cuisine avec et il fait des soupes à distribuer.
Pourquoi avez-vous décidé de faire profiter les plus démunis de vos récoltes?
Le peu qui est produit dans le 93 ne doit pas aller qu'aux plus aisés. Tout le monde aura à manger des bonnes choses, mais pour moi ça coule sous le sens. Je ne comprends pas qu'on a un modèle en fait aussi industriel et qu'on fasse tout le temps le choix du rendement en comptant au kilogramme au détriment de la santé de la population, au détriment de la santé des agriculteurs. Enfin, pour moi, je comprends pas en fait.
Nous avons rencontré Claudine Péjou, une femme généreuse et engagée. Elle dirige l'épicerie solidaire Épicéa à Aubervilliers.
C'est difficile d'acheter des fruits et légumes quand on n'a pas beaucoup d'argent. Et Cultissime, nous permet d'avoir des paniers d'agriculture biologique, c'est-à-dire des très bons produits, à des tarifs solidaires. C'est-à-dire qu'on peut bénéficier une fois par semaine d'un panier pour 1 euro.
Pourquoi vous ne donnez pas des légumes ?
Ce n'est pas donné parce que c'est bien qu'il y ait une participation, parce qu'il y a un travail pour produire ces légumes. Mais il faut que la participation soit réduite parce que ce sont des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Mais le fait de demander 1 euro, c'est montrer que ces légumes ont été cultivés par des personnes qui travaillent. Ça ne pousse pas tout seul.
Sur quels critères sélectionnez-vous les bénéficiaires de ces paniers solidaires ?
Bonne question. Ce n'est pas nous qui choisissons. En fait, c'est le service social d'Aubervilliers qui reçoit les personnes, qui essaie de les aider à obtenir tous leurs droits, parce que c'est quand même la première priorité, avoir tous ses droits, pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour après pouvoir faire ses courses normalement. Et en attendant qu'ils obtiennent leurs droits, je sais pas, au RSA, pour le logement, eh bien, ils nous les envoient pour une période de 2 à 4 mois pour faire des courses à des prix réduits.
Qu'est-ce qu'une épicerie solidaire ?
Alors, une épicerie solidaire se présente comme une épicerie, comme un magasin de quartier. Simplement, les personnes qui viennent payent 10% du prix réel. Par exemple, ce qui est à 1 euro, ils le payent 10 centimes. Et nous bénéficions aussi de produits gratuits donnés par des supermarchés, puisque maintenant, les supermarchés doivent lutter contre le gaspillage et donc ce qui est en date limite de consommation peut nous être donné. Donc on peut faire ses courses, mais évidemment pour beaucoup moins cher.
Combien de familles bénéficient de ces paniers ?
Alors les paniers, peu de familles, parce qu'en fait l'année dernière on n'a eu que 10 paniers par semaine. Ce n'est pas beaucoup hein, parce qu'on reçoit une soixantaine de familles par semaine. Mais on espère cette année faire mieux. Normalement, on devrait aussi ouvrir le samedi matin un petit marché avec Cultissime, ce qui permettra à d'autres de venir acheter des produits, à des prix réduits bien sûr.
Grâce à Claudine, nous avons pu interroger Mélissa et Samira. Toutes les deux ont pu goûter les bons légumes de Cultissime.
Je suis Madame G, Mélissa, et je suis habitante d'Aubervilliers. J'ai profité de temps en temps d'Épicéa. Enfin, au début, moi, c'était une association que je voulais pas aller parce que je me disais que c'est un peu honteux, c'est un peu humiliant d'aller demander de l'aide quand on n'a pas forcément à manger pour les enfants. Et franchement, c'est des gens qui nous ont bien accueillis, qui sont bienveillants, qui sont chaleureux, qui prennent le temps vraiment de... Ils sont humains, quoi, c'est ça. Enfin, c'est ce qui manque dans la société. Et enfin, c'est comme si on était une petite famille et ça fait du bien.
Et du coup, vous bénéficiez des paniers solidaires ?
Oui, j'ai bénéficié et franchement, mes enfants, ils étaient contents de goûter autre chose que les conserves, parce que c'est le bio, tout le monde ne peut pas y accéder. Ah, les goûts, ça n'a rien à voir avec les conserves ou même ce qu'on achète au supermarché. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit et on sent vraiment le goût des produits.
Claudine leur a aussi permis d'apprendre à cuisiner les légumes de Cultissime.
Je suis Madame Boutan Samira, j'habite à Aubervilliers. Les goûts bio, c'est trop bon, ouais. C'est une autre chose. J'ai participé pour l'atelier à la cuisine et tout, on a utilisé les petits ronds et c'était bien passé, franchement, on a cuisiné ensemble. Même, elle m'a donné, même pour rentrer à la maison, elle m'a donné des petits ronds. Comme ça, j'ai cuisiné pour mes enfants.
Ils pensent quoi d'eux ? Les enfants pensent quoi des fruits ?
Ils ont aimé. Franchement, ils étaient contents. Et ils ont aimé parce qu'au début, j'ai utilisé même pour les gâteaux. Je ne les connais pas. J'ai découvert avec les groupes ensemble. Après, j'ai fait la même recette avec mes enfants.
En fait, nous avons fait tout un repas autour du petit marron, qui est un petit rond. De la soupe, des légumes et des desserts.
Des gâteaux, c'est ça.
cake, il était bien moelleux. Moi, j'avais jamais goûté je connaissais qu'en salé. Le sucré, c'était la première fois que je goûtais et ça m'a étonnée. Et c'était vraiment... Là, on sentait vraiment la saveur. Ça se voyait que c'était bio.
Ça m'a rappelé quand j'étais petite. Quand j'étais petite, hein, j'ai grandi comme ça en Tunisie, moi. J'ai fait les légumes avec mon père.
Mélissa et Samira sont partis récupérer leurs enfants à l'école. Nous, on a repris notre jeu de devinettes avec Alexandre.
À côté, vous connaissez ou pas celle avec des épines un peu plus piquantes?
C'est des roses. Des tulipes.
Des roses et des tulipes. Je suis étonnée.
Est-ce que ça fait partie de la même famille des fraises et framboises?
Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est des petits trucs rouges. Des fraises.
Des fraises, non, mais des petits trucs rouges ronds que t'as fait le signe. C'est vraiment pas mal. La même famille, famille Rubus, mais ça va pas t'aider trop.
C'est
grenade. Non, la grenade, c'est un arbre.
C'est quoi des cassis?
Cassis, c'est un petit arbuste qui produit des fruits noirs, assez sucrés, et très souvent, nous, on le connaît comme sirop quand on est enfant.
Si c'est pas la framboise,
groseille.
Et que ça...
Voilà,
groseille. Mais celle-là, c'est pas les groseilles en grappe, c'est des groseilles à macro. Ça fait des petites boules, c'est un peu plus sucré quand on les prend, quand elles sont bien mûres. Elle a un gros avantage, c'est que ça, c'est une plante qui est endémique, donc c'est-à-dire que c'est vraiment une plante qui vient historiquement de nos régions. Donc elle est très résistante au froid, à la chaleur, etc. L'inconvénient, c'est qu'il y a quand même pas mal d'épines. Donc la récolte n'est pas forcément très facile.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
Vraiment une vocation sociale d'aider les personnes et aussi le côté de me dire mais c'est pas normal qu'on ait pas tous accès à la nature. Moi je fais partie des personnes qui préfèrent avoir un travail dur tant qu'on peut physiquement se le permettre et mentalement se le permettre, mais qui donne un sens à ce qu'on fait et pourquoi on se lève le matin. J'avoue que si j'avais un boulot qui avait pas de sens mais qui était facile, je sais pas si j'arriverais à me lever le matin. Enfin, le matin, on se lève et on a la foi ou on l'a pas. Le jour où on n'a plus la foi, c'est par métier qu'on peut continuer.
On voit une ferme. On voit une ferme. Et pourquoi elles pleurent comme ça? Ah oui, elles n'ont pas mangé. Elle a faim.
Les chèvres, ils pleurent parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas mangé.
Alors, les animaux, ce ne sont pas nous qui les gérons. C'est comme des animaux de compagnie, mais pour le gérant. Il a ses chèvres et ses poules, comme certains ont des chèvres et des poules dans leur grand jardin. Sauf qu'ici, elles sont à 10 mètres d'eau.
Mais tu vas bien, la chèvre? Elle fait quoi à son dos, là? Elle lui a fait quelque chose?
Et
fait que de la chèvre.
Je pense que c'est un mâle et une femelle. Je vais pas être dans les détails.
Ah, je sais, c'est quoi? C'est le mari et sa femme et ses enfants. C'est quoi votre... rapport avec la nature?
Mon rapport avec la nature, et on doit juste apprendre à se reconnecter avec les différents autres êtres vivants, les autres aussi qui ne sont pas que humains. Il y a un côté apaisement, vraiment plein de sens. J'ai du mal à décrire, pour moi c'est plutôt quelque chose de... un rapport très intime au fait d'avoir les mains dans la terre, d'être tous les jours dehors, d'utiliser à la fois son corps, son esprit. Il y a aussi un côté où la nature, ça mixe en permanence plein de connaissances, notamment qu'on a appris à l'école, mais qui sont pas chacune dans leur coin. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on utilise des maths, évidemment, qu'on utilise de la SVT, évidemment, qu'on utilise de la physique et de l'histoire aussi. Mais sans se dire, là, je vais faire une heure de ci, une heure de ça, il y a vraiment le côté où tout se mélange en permanence, en fait. Complétude presque, on pourrait dire. La complétude, c'est un peu un état où on se sent vraiment en accord avec soi-même sans qu'il manque une partie.
Merci d'avoir écouté mes questions.
Merci de tes questions.
On a eu beaucoup de chance de pouvoir visiter cette ferme inaccessible au public. Rendez-vous à Épicéa pour découvrir leurs légumes.
Ce podcast a été réalisé par les élèves du Club Nature du collège Myriam Makeba à Aubervilliers, dans le cadre d'une résidence Agora, initiée par le département de la Seine-Saint-Denis.
Avec l'aide de notre professeur Laura L'Esprit, des journalistes Myriam Lai, Laure Vatrin et Sils Fébertili de l'association Transsonore.
Et d'Anthony Capelli pour le mixage et l'habillage sonore. Victor,
Arthur,
Tim, Camille,
Erkiel,
Yvonne,
Issa,
Dinette,
Rania,
Abdoulaye,
Rhys,
Fatimata,